Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique qui sera un peu particulière, car nous allons parler de l'événement de la rentrée de RPH, le financement participatif ou crowdfunding, c'est-à-dire le financement par la foule. Comme vous le savez, fidèles auditeurs, RPH a lancé une opération de financement participatif afin de l'aider, de nous aider, de vous aider à réussir sa mue technologique et son changement de locaux, notamment afin d'être davantage présente au quotidien. Naturellement, tout ceci passe par le nerf éternel de la guerre, l'argent. Alors pour ma part, je vais vous parler de ce fameux crowdfunding, financement participatif, et de son cadre légal. C'était l'occasion. Petit historique. Le financement participatif, c'est-à-dire un financement assuré par plusieurs personnes qui mettent des fonds en commun pour un but commun, existe depuis longtemps. On le retrouve par exemple au Moyen-Âge pour assurer le financement de biens d'équipement comme un four banal. Banal au Moyen-Âge, ça voulait dire commun, hein, dans son ancienne acception. Ça ne veut pas dire qu'il est banal, ça veut dire qu'il est commun. Ou un moulin par exemple, un moulin à huile dans une paroisse ou dans un village. On retrouve également un système au nom poétique, la tontine. Il y a plusieurs versions de tontine. La version française actuelle, qui est prévue par l'article 1044 du Code civil, est plutôt une mise en commun d'argent pour financer un bien immobilier, lequel va revenir au dernier survivant. Techniquement, ce n'est pas une copropriété, car chacun a vocation à être propriétaire à la fin, pour autant qu'il ait survécu aux autres. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, et aux USA, après avoir connu un grand succès, ce système a fini par être quasiment interdit partout, car plusieurs affaires sont venues défrayer la chronique. Certains, soit pressés, soit n'acceptant pas le caractère aléatoire d'être éventuellement le dernier, s'étant mis à trucider joyeusement leurs collègues de tontine afin d'aider le hasard. Il y a quelques affaires comme cela dans des cas de viager. Dans un viager, je rappelle que vous payez généralement une somme, qu'on appelle le bouquet, puis une rente mensuelle au propriétaire qui reste dans les lieux ou pas. C'est alors un viager libre et vous êtes propriétaire à leur mort. Mais évidemment, cela peut créer des vocations d'abrégeur de vie. Il existe une autre tontine, davantage représentée en Afrique, dans les sociétés n'ayant pas accès au crédit bancaire. C'est la tontine associative. Là, ce sont les membres, généralement du village, qui vont mettre en commun leurs petits moyens financiers afin d'aider, projet après projet, l'un des leurs, par exemple, réparer une maison, creuser un puits, etc. Cette forme de tontine est arrivée en France sous la forme du microcrédit, par exemple, pour celui à qui va manquer 500 euros pour acheter un indispensable ordinateur portable ou 150 euros pour s'habiller correctement pour chercher du travail. De là, nous arrivons donc au crowdfunding qui n'est normalement pas du crédit, même si la loi de juin 2014 a mis en place trois systèmes de financement participatif en France. Premier système, les plateformes reposant sur le modèle du don. Deuxième système, les plateformes reposant sur le modèle du crédit. Et troisième système, les plateformes reposant sur le modèle de l'investissement en fonds propres. Les deux dernières sont plus techniques et entrent dans le champ de la réglementation bancaire, même si vous pouvez proposer du crédit gratuit. Je vais donc me préoccuper de la première forme, la plateforme reposant sur le modèle du don. Le système est ancien, c'est par exemple par une souscription publique que Mozart a fait financer ses premiers concerts à Vienne et en échange il remerciait ses gentils donateurs lors du concert. C'est ainsi que l'on a financé la Statue de la Liberté à New York ou encore nombre de monuments aux morts après la guerre de 14. Il faut savoir que dans toute la France, seules 12 communes sur plus de 40 000 à l'époque n'ont eu aucun mort à la guerre de 14. Et lorsqu'il s'est agi d'ériger un monument aux morts dans chacune des communes endeuillées, l'essentiel de la tâche devait être fait dans de toutes petites communes rurales qui n'avaient évidemment pas le sou, d'où le passage par des souscriptions et autres legs. Le financement participatif, tel que nous le connaissons donc aujourd'hui, nous est revenu des USA au début des années 90 avec le développement d'Internet et a concerné d'abord la production artistique, financer un album musical, un spectacle ou encore un film par exemple, ou les actions caritatives. Puis est venu le financement du lancement d'une activité économique généralement à caractère social ou innovant. Arrivé en France, ce mode de financement a donc été organisé par une ordonnance de juin 2014 qui fixe les obligations de la plateforme de dons, celle qui va recueillir les dons, organiser la collecte, et qui doit donc adhérer au registre unique des intermédiaires en assurance. Et oui, parce qu'elle doit garantir que les sommes qui ont été versées seront versées, même si elle fait faillite. Et celle du porteur de projet, c'est-à-dire celui qui demande les dons, qui doit définir la somme espérée, le projet à financer, le délai maximum de fonctionnement de la cagnotte. L'argent récolté ne pourra être dépensé que pour le projet défini et qui est présenté pour les dons. Ce projet doit naturellement être légal, c'est-à-dire notamment moralement acceptable, et on rappellera, sans vouloir entrer dans la polémique, il faudrait de toute façon une chronique entière pour en discuter, que trois cagnottes ont ainsi été mises sous les feux de l'actualité, car une partie de l'échiquier politique et de la population, de façon très clivante, la contestait ou la soutenait. Il s'agit premièrement de la cagnotte pour le « boxeur » entre guillemets gilet jaune Christophe Détinger, qui a été annulée par la justice, jugement récemment confirmé par la cour d'appel il y a quelques jours, pour cause immorale. Tandis que celle pour le policier mis en examen pour la mort du jeune Naël et celle pour les parents de ce jeune homme qui ont atteint des sommes considérables, 1,2 million pour celle du policier et plus de 70 000 euros pour la maman de Naël, ont été débouclés sans difficulté. Mais il faut se dire aussi que personne ne les a attaqués devant la justice. Pour en revenir au financement participatif en général, il est permis de prévoir une contrepartie, c'est-à-dire un objet ou une prestation, par exemple, réaliser son émission de radio. Vous pourrez donc venir enregistrer une émission juridique avec moi si vous voulez, en échange de dons qui atteignent un montant fixé à l'avance. De la même manière, il faut savoir que si le porteur de projet est une association reconnue d'utilité publique, ce qui est le cas de RPH, vous pouvez obtenir une attestation de don vous permettant de déduire 66% de celui-ci de vos revenus imposables. Ce n'est pas un avantage négligeable au moment de prendre la décision de donner. Dernier point, je me rends compte que c'est la 40e chronique. 40, c'est le chiffre de l'effort, de la mue et du renouveau dans les trois grandes religions du livre. C'est donc un heureux présage. Elle va marcher du feu de Dieu, si je puis dire, cette cagnotte. Voilà, vous savez tout et je vous retrouverai avec plaisir sur Radio Pays Héros et RPH Sud dans 15 jours, car n'oubliez pas, vous en avez pris pour perpète. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Epailly, avocat, à écouter les 2e et 4e mardis du mois à 12h45, rediffusion le jeudi à 9h35.